Bonsoir à tous, merci d'être venus. En plus, je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez si nombreux. Parce que le temps joue un peu contre nous, dans la mesure où il y a en ce moment même Paul Ludic avec sa soirée ludique qui a un petit peu attaqué. Bon, je vous rassure, à 20h, il y aura normalement encore des choses faisables pour ceux qui voudront y aller. Mais en tout cas, merci. Le temps qui joue aussi contre nous, parce que évidemment, monsieur le président étant là juste avant, ça déborde un peu. On va travailler, je vais laisser d'ailleurs ces messieurs passer, sur la notion justement de salle temps pour les joueurs. Vous l'aurez certainement tous compris, avec un titre comme ça, on s'amuse à verser dans le jeu de mots. On va travailler un petit peu sur la notion de temps, bien sûr, temps qui coule, mais aussi temps météo. On va parler surtout parler des galères dans lesquelles les joueurs sont inscrits, soit par le jeu, soit par le MJ, soit par eux-mêmes d'ailleurs. Ça vous va?
On a le choix.
Après, si t'as le choix, oui, bien sûr, Tu peux tout à fait orienter le discours sur autre chose, je te laisse faire. Je laisse ces messieurs se présenter dans un premier temps, s'il le veut bien. Je te passe le micro, hein.
J'en ai un juste devant.
Okay.
Donc bonsoir à tous, je m'appelle Romain Mekira, je m'occupe du programme Expérience JDR qui a pour but de transmettre le savoir du jeu de rôle aux gens, de donner des conseils, etc. Et en plus d'initier les gens au jeu de rôle via le support numérique et notamment aussi par internet, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours besoin pour être initié de se réunir autour d'une table et vous pouvez découvrir ça pour lui dire.
Bonsoir, donc, je m'appelle Arnaud Cuidet, je suis auteur de jeux de rôle, auteur de romans, magnétiseur, chaman.
Pilote d'hélicoptère.
Non. J'ai un stage en ce moment, mais. Et j'ai notamment écrit en tant que jeu de rôle Metal Adventures et Faust Commando.
Bonsoir, je m'appelle Sébastien Huffino, je suis un peu auteur de jeux de rôle, un peu auteur de jeux plus courts, de société notamment, podcaster, et je participe à pas mal de. Trois magazines disponibles sur le jeu de rôle. Pour faire des commentaires,
des conseils. Ok, j'ai ajouté que d'ailleurs Sébastien s'en présente aussi deux autres tables rondes, samedi matin et dimanche matin, une sur gameplay et l'autre sur la transmission du jeu. Voilà. Si sa prestation a été bonne ce soir, il sera peut-être pas à vous. Bien, par quoi vous voulez commencer, messieurs? Est-ce que vous avez un sujet de prédilection sur. On commence par un truc tout bête. On va commencer par le temps.
J'ai l'avis de laisser les aînés parler d'abord.
Ah, c'est génial. On commence par le temps, l'usage du temps dans le jeu de rôle, et comment on peut en faire quelque chose qui est un problème pour les joueurs. C'est hyper vicieux ce que tu fais, Sébastien.
J'ai pas entendu déglutir en plus en parlant de micro.
Je t'aime pas beaucoup, Sébastien, je crois.
Alors, il y a un certain nombre d'années, je dirais pas le nom parce que ça va me vieillir, on avait travaillé dans le casus belli de l'époque sur le temps, parce que, c'est pour vous dire que ça remonte, c'était l'époque où 24 heures chrono était vachement à la mode, et on s'était posé la question de savoir si on pouvait jouer en temps réel. C'est-à-dire que les actions décrites par les joueurs prenaient autour de la table le temps qu'elles étaient censées prendre. Et j'avais eu l'idée. Mais j'ai eu une fois, j'aurais pas deux fois, d'écrire un scénario, donc c'était pour Cops, qui fonctionnait sur ça. Donc le scénario était censé durer 8 heures pour les personnages, et il était censé durer 8 heures autour de la table. Et il y avait tout. Enfin, je m'étais bien cassé la tête pour que, à chaque fois qu'il y a une action trop longue pour être décrite en temps réel autour de la table, il y avait une autre partie des joueurs qui avait un truc super. Parce que c'est comme ça que marche la série 24 en plus, il y avait une autre partie des joueurs qui avait un truc super intéressant à faire auquel on pouvait. Avec lequel on pouvait travailler. C'était une gymnastique horrible. C'était super bien, les joueurs étaient super contents, mais c'était horrible. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, le temps, c'était un enjeu scénaristique qui pouvait être très important et qu'on pouvait créer de la tension avec des choses un peu bêtes. Combien de temps ça prend pour faire un relevé d'empreintes, un examen d'ADN, combien de temps ça prend pour décrypter, parce que dans les films, souvent, ils font n'importe quoi, pour décrypter un code, pour recalibrer un satellite, parce qu'en fait, contrairement à ce que laisse penser Jack Bauer, recalibrer un satellite, c'est super long, et ça se prévoit, il faut des autorisations, enfin, et c'était assez intéressant, mais c'était un vrai casse-tête.
Merci à vous. Quelqu'un sur le sujet ?
Bonne chance.
Alors, au niveau du temps lui-même, hein, le temps en effet on peut l'utiliser de plusieurs manières. Moi, j'utilise à la fois comme facteur de danger, ici même en ce moment. Moi je vous, enfin sur la partie initiation d'appel de Cthulhu que je fais, bah, c'est simple. Je dis aux gens, bah, voilà, vous regardez votre montre, il est 22h, vous avez un élément qui vous dit voilà, à telle heure, bah, je viens prendre vos âmes. Et le minuteur tourne. Ce qui fait que les joueurs se mettent une pression, ils voient ce minuteur qui découle. Et plus ils voient qu'ils ont du mal à avancer ou que certaines actions prennent trop de temps, etc. Et qu'ils voient que cette échéance se rapprocher, la pression augmente. Et c'est le but de ce scénario, c'est avant tout de s'amuser, certes, mais c'est de générer une certaine pression, une certaine tension qui à la fin devient quasi insoutenable pour les joueurs, surtout s'ils n'arrivent pas à trouver vraiment la clé du mystère. Et voilà, c'est savoir jouer avec le temps comme ennemi, en fait. Vraiment telle une personne.
Quand on parle des scénarios chronométrés et de l'usage du temps, on pense souvent à l'écoulement du temps, l'écoulement linéaire, tout ça, je vous fais le rapport de physique qui va avec. C'est pas la seule manière d'utiliser le temps. Le temps passe et s'accumule, et des tas de données ludiques peuvent s'accumuler pendant ce temps-là. Le principe des jeux d'attrition, par exemple, c'est au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de vos actions qui sont liées dans le temps, la capacité d'action des persos va baisser. Moi, j'ai un goût particulier pour les systèmes de jeu, y compris pour les jeux de société, pour les choses qui empirent mécaniquement au fur et à mesure qu'on les utilise, y compris le jeu lui-même. Et ça peut se traduire de plein de manières. Par exemple, je fais la démo actuellement d'un jeu où le nombre de dés que le MJ peut lancer contre les joueurs augmente à chaque scène. Ce nombre augmente peu lorsque les joueurs s'en sortent bien, il peut augmenter beaucoup plus vite lorsqu'ils en piquent des connards. Ce qui est rigolo, c'est que pendant ce temps-là, comme c'est aussi un système d'attrition, leur capacité d'action baisse. Et généralement, vers milieu de la partie, les joueurs s'aperçoivent que les forces se sont échangées. Ils ont commencé très fort face à un MJ très faible, et que maintenant on est à égalité. Et comme on est au milieu de la partie, ils savent que pendant la deuxième moitié, le MJ va être de plus en plus fort et de plus en plus faible. Et rien que cette accumulation d'attrition de leur côté, de puissance du côté de l'énergie, commence à leur amener l'idée que s'ils ne se pressent pas de résoudre le problème, plus cette situation va durer, plus l'écart entre leur capacité d'action et les dangers que l'énergie peut leur mettre va continuer d'augmenter dans les proportions qu'ont des chances de les dénoncer. Rien que la perception du temps de celui qui est passé, le fait qu'on puisse l'accumuler par des systèmes mécaniques et le répercuter sur le jeu, des dés qui s'accumulent au fur et à mesure des scènes, etc. Et simplement l'anticipation du temps à venir comme étant bien compris de pire en pire, peut là aussi créer de la passion même quand on n'a pas chronique.
Cette planification, je dirais, du rapport de force, elle intervient au fur et à mesure de leurs actions, c'est ça ? Donc j'imagine que le temps consacré à penser l'action augmente du côté des joueurs.
Alors oui, c'est d'ailleurs particulièrement vrai dans des jeux de plateau sur lesquels je suis en train de bosser, ou pareil, les choses, c'est des jeux coopératifs où les choses empirent à mesure. Et on constate que plus la pression augmente, plus les joueurs deviennent extrêmement prudents et passent beaucoup plus de temps à se coordonner, à réfléchir à ce qu'ils font, parce que chaque action compte. Chaque ratage ne va faire qu'empirer, comme l'attrition à côté et l'augmentation des pouvoirs du MJ de côté.
Il y a un côté un peu jeu d'échecs, quoi. Au début, tu commences assez vite, et puis ça se fait à mesure. Chaque coup devient une réflexion en
longue. Ce qui est intéressant d'un point de vue narratif, c'est que le temps où les joueurs se mettent d'accord, on peut le considérer comme un temps mort, c'est du bêta-jeu, ils discutent de ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, mais c'est toi qui as le plus gros score, tu passes le jeu, etc. Comme c'est le cas dans le jeu dont je parle, ça s'appelle Monde du Nombre, qui sera en démo le week-end. J'oblige les joueurs à se mettre d'accord en roleplay. Ce qui veut dire que le temps de coordination entre les persos, c'est du roleplay. Et comme le roleplay est assez cadré, c'est du temps où ils s'engueulent, ils se trahissent, ils se font des fions, les alliances se renégocient, etc. Et donc plus ce temps-là augmente au cours du jeu, plus vers le troisième acte, le temps qu'il passe à s'engueuler et à se trahir prend une importance dans le jeu. Donc, non seulement leur capacité d'action baisse, le danger augmente, mais ils s'engueulent.
Ah, j'aurais dû prendre une petite prévoir un peu pour l'ordre pour qu'il fasse des jolis cours. ok, ça c'est intéressant parce que c'est un sujet que je voulais aborder justement, le rapport entre les joueurs. Donc toi, par le facteur temps qui coule toi, et qui génère une attrition entre tu génères, de fait c'est le gameplay hein, qui va générer du rapport de plus en plus tendu et des tensions entre les joueurs. Vous utilisez quels autres mécanismes justement pour générer de la tension entre les joueurs?
Moi en fait je fais l'inverse. J'utilise des systèmes qui augmentent l'entraide entre les joueurs. Ça vient d'un truc tout bête, c'est que moi, j'allais dire le hasard, non c'est pas le hasard, mais de fait, depuis très longtemps, je joue dans un groupe de joueurs où on n'envisage pas en fait de se faire un fion, comme dit Sébastien. Et d'ailleurs, les rares fois où on a essayé d'intégrer de nouveaux joueurs qui eux étaient plus dans cette démarche-là, ça s'est pas très très bien passé pour ces joueurs-là. On a été super gentils avec autour de la table, par contre, en perso, ils ont mangé. Moi, je cherche plutôt à créer des systèmes de jeu qui créent de l'entraide. Et alors, sans faire de la retape, mais dans Metal Adventures, notamment, on joue en équipage de pirates de l'espace. C'était très important pour moi que dans le système de combat, et notamment le système de combat spatial, l'entraide soit au cœur du jeu. Et donc, tout est conçu pour que les joueurs aient intérêt à avoir une stratégie commune et à s'entraider les uns et les autres. Et j'ai réalisé la semaine dernière à une autre convention, c'est je crois que l'une de mes plus grandes fiertés pour Metal Adventures, c'est que quand je fais une partie en convention avec des gens qui ne se connaissent pas, ils se rencontrent au moment de s'asseoir autour de la table, au bout de une heure et demie de jeu, ils s'encouragent les uns les autres, ils sont tous attentifs aux jets de dés des uns des autres, ils s'applaudissent quand ils réussissent des jets de dés, et je trouve ça génial.
Je dirais que c'est le propre même du jeu de rôle. Le jeu de rôle, on est sur quelque chose qui est quand même coopératif. Donc même si on se fait des petits coups bas, hein, que les MJ sadiques que certains d'entre nous sommes, avec lesquels nous délectons bien sûr, mettons en œuvre, le but c'est de favoriser la coopération, la bonne entente autour de la table, etc.
Mais cette coopération peut aussi être un enjeu ludique, en l'occurrence. Le jeu dont je parlais, les joueurs sont effectivement vivement incités à se faire des lâcheries les uns aux autres. Le système nécessite par ailleurs qu'ils s'entraident sur des tas de choses. Et ça veut dire que réussir à s'entraider alors qu'on s'était trahi à la scène d'avant devient un enjeu ludique. En fait, ils passent leur temps à s'engueuler et à essayer de se réconcilier pour finir l'aventure quand même.
C'est ça, c'est clair. Même si on se fait décrocher tout au long de la partie, au même moment, on va falloir bien coopérer ensemble parce que sinon, il n'y a personne qui arrivera à la finir. Donc ça après voilà, c'est aussi un concept de temps, c'est-à-dire la partie qui avance, les scènes qui se défient, c'est jouer avec le temps, la progression des personnages. Excusez-moi, j'ai chopé. La progression des personnages au cours du scénario, voilà, c'est un temps qui passe, avec lequel ils prennent entre guillemets de l'expérience de jeu, avec lequel ils vont construire des choses, des choses que le temps leur permet en fait. Le temps d'une aventure, le temps d'une partie, le temps d'une campagne.
Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce sujet-là. Parce que là, vous ouvrez une boîte de Pandore, qui est l'usage du jeu de rôle. Ou du jeu en général, d'ailleurs. Système coopératif, son coopératif, ça appartient un peu, si je peux dire, voilà. Ça appartient un peu à l'histoire aussi du jeu de rôle, de ces mécanismes, des mécanismes qui ont été mis en place. Donc, elle est trop petite comme ça. En l'occurrence, on a un historique qui s'appuie sur des jeux comme Donjon qui ont organisé des équipes de joueurs qui étaient en général des équipes structurées par des compétences cumulées qui permettaient de passer des obstacles. On va faire très vite sur le sujet. On a d'autres mécanismes qui existent aujourd'hui dont on va dire. Dans les jeux de rôle que vous pratiquez, visiblement, vous avez un goût différent sur le sujet. Moi, j'aurais tendance à avoir un rapprocher un peu de Sébastien dans l'usage d'une certaine violence qui se produit, notamment verbalement, entre mes joueurs autour de la table, parce que ça me plaît. Et que j'y trouve beaucoup de plaisir, parce que je suis certainement comme lui. C'est quoi votre. Quand ça se développe, par exemple, quand tu vois des joueurs s'engueuler autour de la table, tu réagis comment à ça? Tu laisses faire ou pas?
Mais c'est les personnages qui s'engueulent ou c'est les joueurs qui s'engueulent?
C'est justement tout le fond de la question.
Non, mais ils s'engueulent à cause du jeu, ils s'engueulent pas parce qu'il y en a un qui est pied avec les dames de l'autre.
Tu sais, un Monopoly.
C'est le meilleur jeu pour perdre ses amis.
Ça fait partie de rallier, je pense, de voir des gens s'engueuler et puis émotionnellement être chargés par le truc qu'ils ont vécu dans le jeu et en garder des traces derrière.
Il faut qu'on parle.
On parlait de débrief hier dans un sujet sur le jeu avec les émotions, mais on joue tout le temps avec les émotions des joueurs. Et d'ailleurs, c'est un peu le plaisir du MJ quelque part de jouer avec ça. Là, il y a une vraie tension qui peut naître entre joueurs quand ils jouent leur personnage, d'où l'intérêt du débrief d'ailleurs à la fin pour lâcher un peu tout ça. Ça fait bien de reparler de la partie après pour mettre à plat les choses. Et comment vous réagissez, vous laissez faire ou au contraire vous essayez de faire un peu de modération?
Mais je crois que je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette question.
Ouais, on va laisser Sébastien répondre, parce que lui il fait ça.
Moi c'est très variable, en fait ça dépend de la nature de la tension et de à quel point il me semble utile pour la suite du scénario. Globalement, si mon scénar repose sur le fait que les joueurs s'engueulent au-delà même de leur personnage, je vais sans doute jeter une pique sur le feu. je vais pas me bêler. Si à l'inverse, j'ai besoin qu'ils communiquent sur un autre mode, par exemple, ce qui m'arrive assez fréquemment de faire des scénarios où il y a une part dramatique suffisamment importante pour qu'à un moment un personnage puisse pleurer sur l'épaule d'un autre, qu'il s'échange de rapports, qu'il se raconte leur malheur, etc. Je vais plutôt essayer de calmer les tensions ou de les transformer vers autre chose. Y compris, il m'arrive d'être le psy invisible des PJ, c'est-à-dire d'utiliser le fait que quelqu'un ait compétence psychologie pour expliquer à son joueur, tu sais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, tu sais quel est son problème, et donc tu peux, si tu veux, reprendre la main pour calmer le barbare avant qu'il pète les couilles.
Je ne sais pas comment c'est le barbare, mais...
En tout cas, dans certains cas, je fluidifie, voire j'essaye d'arrondir les angles pour les personnages ou pour les joueurs. Alors généralement, presque toujours pour les joueurs. Quand ça n'intéresse pas que les joueurs s'engueulent en tant que joueurs autour de la table, et que les personnages se fassent des saloperies et que ça finisse par impacter un peu les joueurs, c'est très intéressant, mais c'est difficile à surfer, si tu veux. Parce que la tension personnelle des joueurs au-delà de leur perso, outre le fait qu'elle peut vachement alimenter le jeu, elle a déjà atteint plus d'une fois à ma table des situations où le perso qui s'est fait poigner dans le dos est joué par un mec qui est un peu susceptible et qui se barre de la table en claquant la porte, et en fait, il aurait pas mis d'oser moins de poche. Mais
j'adore le regard, la réaction d'Arnaud.
C'est un peu le problème de tout ce que tu fais de fin, c'est qu'avant c'est une question de dosage, et tout ce qu'on entreprend un peu difficile peut rater. Vraiment, une grande partie des choses que j'ai apprises sur la gestion des joueurs, du méta-jeu, et la manière dont je manipule énormément mes joueurs. Je profite beaucoup de ce que je sais d'eux, de la manière dont ils se comportent, etc., pour produire des choses dans mes scénarios. Bon, par exemple, j'ai récemment exploité dans une histoire de rituel démoniaque le fait que deux des joueurs étaient de jeunes papas. Donc un était un jeune papa à venir, c'est-à-dire sa femme allait accoucher bientôt. Donc évidemment, le démon a accouché l'heureux d'un truc infâme avec une espèce de placenta démoniaque. Ça, j'en ai rajouté, quoi. Je sais qu'ils angoissent là-dessus, ce serait dommage de se priver. Bon. Après, encore une fois, pour qu'ils reviennent à la séance d'après, c'est une question de dosage. S'ils sont gravement traumatisés, c'est trop. Si par contre, comme c'est arrivé, les deux joueurs, jeune papa, finissent par se tenir les coudes pendant toute la séance, c'est bien l'effet que je veux produire. Mais ça peut rater.
Je pense qu'avec Sébastien, on va pouvoir se faire des soirées ensemble. Ça va être assez fun en termes de technique de maîtrise. C'est quelque chose que j'exploite énormément aussi, cette tension-là, avec parfois même l'issue constat d'une situation, mais je montre derrière que c'est pas sans conséquence. L'importance quand je vois du conflit autour d'une table, c'est soit c'est une émotion que je souhaite faire naître, et dans ce cas, voilà, je vais la cultiver, mais je vais la cadrer implicitement, pour éviter que ça dérape trop. Surtout l'important, c'est que tout le monde passe un bon moment à la fin de la séance. Si par contre je vois voilà, que ça dérape trop, il y a deux éléments qui rentrent en compte. Le premier, pour l'avoir vécu plus d'une fois, surtout en convention, quand ça dérape sur certains scénarios un peu trop violents et où certaines personnes en profitent pour aider les groupes autour de la table, moi je passe un mauvais moment. Et au final, les joueurs aussi. Donc c'est pas intéressant pour tout le monde. Alors des fois on peut avoir la main, des fois on l'a pas. Voilà, ça c'est quelque chose. Quand on peut cadrer, bah, c'est génial. Quand on peut pas, bah, c'est frustrant pour tout le monde. Et voilà. On peut jouir de ces situations un peu sadiques qu'on met en œuvre. C'est agréable, ça cultive certaines tensions. Voilà. L'important, c'est les émotions qu'on souhaite nous transmettre pour que chacun vive une expérience et apprenne de cette expérience au final. Jouer voilà, avec des expériences, enfin, avec des jeunes papas, je l'ai fait aussi. Moi, c'était les mamans. J'ai plus de joueuses dans mes groupes que de joueurs, désolé. Mais voilà, c'est jouer avec ça. Après, il y a aussi certaines choses, voilà, selon les personnes, on s'adapte tous à nos publics. J'ai aussi des parents, etc., et des choses avec lesquelles je vais pas jouer forcément parce que je sais que l'affect sera trop élevé. Et ils vont détester derrière. Donc c'est pour ça. Mais voilà, il faut savoir cultiver cette tension, les relations, les conflits, pour qu'au final, ils apprennent de ces conflits et leur coopération se retrouve enrichie. Je fais beaucoup de Cthulhu, beaucoup d'ondes SRN, etc. Donc je cultive une tension qui devient palpable au fil du temps. Et le but, voilà, c'est ça. C'est que de ces conflits, ils se prennent la tête parce que chacun veut mettre quelque chose de manière différente pour survivre, parce que c'est un objectif commun. Et au final, ils vont se serrer les coudes malgré tous leurs conflits.
Je vais attendre avant que tu veuilles rebondir. Vas-y. Je t'ai vu me porter le micro à ta bouche.
Vous êtes tous des grands malades.
Oui, mais on l'assume en fait.
Ah,
c'est ça, pleinement.
Ah, mais je joue pas du tout comme vous.
Non, mais ça, c'est vachement intéressant. Hein, donc c'est tout à fait normal. C'est-à-dire de l'OSR à d'autres modes de jeu. Après, c'est la façon dont on exploite un outil. Quoi. On est juste face à un outil. Si tu as envie de réagir à ça autrement,
oui.
Vas-y.
Donc maintenant je peux répondre à ta question initiale sur comment je gère les tensions entre les joueurs. Je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas. Moi je mets en place des systèmes de jeu et des aventures qui, à peu près dès le départ, cadrent le fait qu'il n'est pas possible de s'en sortir si on ne coopère pas les uns avec les autres. Et pour moi, le caractère collectif de la démarche du groupe et la fraternité qui est censée régner entre les personnages et les joueurs autour de la table, pour moi, c'est un acquis tellement acquis que c'est quasiment un présupposé. Voilà. Je me rends bien compte que c'est pas toujours présupposé pour tout le monde. Bon, à ce moment-là, il y a une phase d'adaptation, mais en tout cas, moi, la démarche dans laquelle je me place, c'est ça. Je pense que c'est lié au fait que, par ailleurs, je suis quelqu'un d'assez idéaliste. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure de l'outil que pouvait représenter le jeu, pour moi, le jeu est d'une façon générale les histoires. Alors, ben, je vais dire l'histoire qu'on raconte. L'histoire que moi, j'ai envie de raconter, c'est pour aider les gens à voir le meilleur d'entre eux. Voilà. Alors, je suis d'accord que le conflit peut permettre de dégager ça, mais c'est pas trop mon truc. Justement, le conflit, on a déjà bien notre dose par ailleurs. Donc, moi, je mets surtout en avant voilà, la coopération et la fraternité. Et du coup, et par ailleurs, je viens de me rendre compte de quelque chose ce soir, c'est que l'un des facteurs qui fait que les joueurs ne se tendent, enfin, qu'il n'y ait pas de tension entre les joueurs, c'est qu'il y en a suffisamment avec moi. C'est qu'en tant que MJ, par contre, je suis implacable. Moi, si la table de coups critique dit que le PJ est mort, ben, le PJ est mort, j'y peux rien. Et les joueurs le savent. Moi, je jette tous mes GT, à part quelques-uns, je les jette devant les joueurs. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir de tension entre eux, parce qu'il y a déjà ce qu'il faut autour de la table. Et bien, je crois que je préfère ça comme ça.
Pour d'abord des machines feignasses, mais c'est un peu parce que je produis ça dans le boulot. J'ai tendance à me laisser se démerder, à créer du jeu entre eux. Et du coup, quand tu fais ça, quand tu les laisses créer du jeu entre eux, ben, c'est naturellement que la tension arrive. Mais parce que des fois, j'écris pas de scénario.
Je ne suis pas sûr que ce soit naturellement que la tension arrive. Mais c'est un autre débat.
Après, bon, il suffit de jouer. je vais clôturer cette partie de là parce qu'on est, on a commencé tard et que j'aimerais qu'on parle météo. C'est plus fait par très beau. En l'occurrence, comment vous en servez la météo dans vos scénars et comment vous la. À quoi vous sert en fait surtout? À quoi elle sert, à vous sert vous en tant qu'MJ?
Moi j'ai deux usages principaux de la météo. Il y en a un qui est purement narratif. Et il y en a un qui est fondamentalement ludique. Purement narratif, je suis très fan des symboles telluriques et d'un cinéma qui aime à filmer le ciel beaucoup pour annoncer ce que ressentent les gens. Et donc, globalement, l'orage éclate lorsque les personnages s'engueulent. Il n'est pas possible dans mes scénarios d'avoir un combat par un temps normal. Il faut toujours qu'il fasse un temps film de guerre. Donc, il finit pendant tout le film et puis il se met à pleuvoir avant que les gens s'entre-déchirent, etc. Je l'utilise beaucoup pour ça. C'est aussi très utile en termes d'ambiance, y compris simplement de manifester les changements de lumière ou les changements de température. Si j'ai envie que les joueurs restent autour du feu de camp parce que je veux que ce soit une scène de dialogue, j'ai qu'à dire il fait moins 20. Et dès que vous vous éloignez un peu du feu de camp, vous crevez froid. Bon, bah, ils vont rester bien groupés. Ça permet aussi d'amener des tas de variations d'ambiance avec simplement des questions de lumière. Alors moi j'étais storyboarder de formation à ce genre de truc, mode scène un peu, mais globalement dans la manière dont je mène, la lumière, les intempéries et toutes les variations, le vent, etc. sont des choses qui m'intéressent énormément parce que ça me permet de faire du FX quoi. Et donc généralement, les grandes déclarations romantiques se font dans un grand vent de feuilles mortes, ce genre de truc. Je ne m'en lasse pas, j'aime beaucoup ça. Au passage, ça peut même s'utiliser quand il n'y a pas de vraies conditions météo. J'ai par exemple fait une campagne de Space Opera, où j'ai énormément utilisé le régolithe. Le régolithe, c'est la poussière minérale qui s'accumule sur la plupart des astres, qui n'ont pas d'atmosphère. Parce que comme il n'y a pas d'humidité, ben, tout est pulvérisant tout le temps. Toutes les petites miettes passent leur temps à voler. Et comme il n'y a pas beaucoup de gravité non plus, c'est-à-dire que vous courez dans le sable et qu'assez vite, il y a une tempête de sable autour de vous et qu'elle va mettre très longtemps à retomber. Moi, c'est le genre de truc qui m'amuse très fort, qui me permet de faire plein d'effets visuels, y compris l'effet de, quand vous combattez au contact en space opéra dans le régolithe, assez vite, vous ne voyez plus un mètre, parce que tout le monde est dans le brouillard. Ça permet de faire plein de trucs symboliquement, de faire plein d'effets de description et de focalisation, et donc ça va masquer des tas de choses. La lumière, par exemple, est un bon moyen de ne montrer que ce que vous voulez dans une scène. De décrire un bâtiment par les parties éclairées, et puis vous allez faire tourner la lumière au fil de votre scène, et à un moment, ça va commencer à révéler de nouvelles choses. Mais d'un point de vue ludique, j'ai tout piqué à un jeu qui s'appelle Mouse War, et où il y a une fonction récurrente parmi les personnages qui est celui qui est censé donner la météo. Donc dans Oxford, on joue des petites souris qui patrouillent à travers un environnement hostile, et l'une de ces petites souris a toujours pour boulot de dire aux autres « est-ce qu'il va pleuvoir ?» Parce que vraiment la pluie c'est problématique pour les petites souris. Et le principe du jeu c'est celui qui fait le jet de météo détermine la météo. Et, autrement dit, si le jet est réussi, les conditions climatiques seront cool, si le jet est raté, il va pleuvoir. Et alors pour le coup, en campagne, spécialement en Melfam, dans une campagne où les joueurs passent énormément de temps dehors et à crapahuter dans la montagne, je m'éclate avec ça. Parce que là, à chaque fois qu'il y en a un qui regarde le ciel pour savoir comment ça va tourner, il fait son jet de météo et bon, bah, dès que c'est un petit peu raté, un gros orage arrive, les neiges tombent, le vent se lève alors qu'ils sont à 2000 mètres, accrochés à une paroi.
Bon, vous l'aurez compris, il a un peu une formation. Autour de l'image, effectivement. Messieurs, vous le savez.
Alors, en termes de jeu, en fait, la météo, je vais l'utiliser moi aussi à deux sens. Le premier, donc, c'est plus du descriptif, du narratif, etc., pour fixer les conditions. En effet, si je veux susciter une émotion, que les joueurs, par exemple, en effet, restent dans un huis clos parce qu'il y a une tempête de neige, voilà, ou un typhon, etc., je vais l'utiliser. Ça permet vraiment de générer ce genre de choses. Et les amener parfois là où on veut. La deuxième chose que j'utilise beaucoup, c'est de personnifier, en fait, le temps. C'est-à-dire que cette météo capricieuse, je vais lui donner une âme, et je vais en susciter un danger. Quand je vous mets en plein milieu d'une forêt tropicale, et que je vous annonce qu'il y a un typhon, un cyclone, qui est en train de zarniller dessus, et que pendant ce temps-là, il faut quand même que vous alliez faire quelque chose, et surtout au passage, sauver votre peau. J'utilise à la fois le temps en termes de délai, parce que la météo, la catastrophe arrive, mais en plus, je vais lui donner de plus en plus de poids à cette météo, pour que l'émotion soit de plus en plus intense, qu'on sente le danger, la lourdeur, et que l'atmosphère devienne pesante pour les gens.
Moi, le principal jeu auquel je joue depuis maintenant un certain temps, c'est Metal Adventures. Donc, c'est un jeu qui se passe beaucoup dans l'espace. Donc, la météo dans l'espace, c'est assez particulier. Voilà, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai pas décidé de faire un jeu de science, donc j'ai pu faire ce que je voulais. Donc, pour moi, la météo, c'est avant tout des trous noirs, des tempêtes cosmiques, des tourbillons de plasma, des trucs comme ça. Et effectivement, dans Metal Adventures, ça... Bon, après, les MJ font bien ce qu'ils veulent, mais a priori, ça a beaucoup d'importance, puisque c'est ça qui rythme les voyages spatiaux, c'est ça qui justifie le fait que les voyages spatiaux dans l'état d'aventure, tout le monde n'en fait pas, que les pirates de l'espace ont une place particulière dans cette galaxie, parce qu'eux, ils savent braver tout ça. Donc oui, c'est très important, mais je dois avouer que je pense que je m'en sers de façon plus ludique que mes deux confrères. Je n'ai pas forcément le réflexe de faire éclater des orages dès qu'il y a deux PJ qui s'engueulent, mais je pense que c'est une bonne idée. Voilà, j'ai plus un rapport ludique à la météo, et là je suis en train de travailler sur un jeu de commandos et d'espions, et je pense que je vais m'inspirer des règles d'un très vieux wargame qui s'appelle Spot Leader, où selon la saison, les champs font du camouflage ou pas, parce qu'il y a des brumes, il n'y a pas de blé. Et un jeu dans lequel la météo, voilà, la pluie, ça réduit la portée des armes, la distance à laquelle on voit, ce machin. Et donc c'est très très important. Donc je pense que je vais m'atteler à ça très bientôt.
Mais je vais répondre aussi à ma propre question sur le sujet. En fait, c'est pas vraiment une question météo, mais c'est une question de changement lié aux lunes et Bloodlust qui propose ça. Bloodlust, alors je connais pas la nouvelle version, mais l'ancienne version. Chaque mois, on a nos désirs qui sont influencés par les lunes, avec une certaine violence que ça génère. Et par contre, un truc vachement intéressant, une obligation pour les joueurs à role-payer en fonction. Et donc du coup, c'est un des rares jeux que je connaisse sur lequel la rotation des astres influe sur leur manière de role-player. C'est-à-dire que du coup, on est face à des joueurs qui sont obligés de prendre en considération le fait que leur rôle change. C'est vachement intéressant.
Alors, du coup, je vais faire mon grand ancien. Néphilim était comme ça. Ouais. Néphilim, notamment, alors je ne sais plus en troisième, mais en deuxième édition, chaque jour de la semaine, et il me semble même que ça changeait selon les saisons, était associé à un élément, et donc ça impactait chaque personnage, puisque tous les Néphilim sont liés aux éléments. Et ça allait, dans certains groupes, ça allait même très loin, c'est que tu savais que si tu voulais te faire une commanderie templier, il ne fallait pas y aller. De mémoire le samedi, parce que le samedi c'était le jour de réchauffe, qu'ils allaient tous avoir des bonus, ces salauds, et toi t'allais prendre cher.
Ouais, mais il faut pédaler, c'est chavasse. C'est bon. Ok, le temps a tourné hyper vite, mais en même temps on a commencé très très tard. On a 10 minutes devant nous. Je voulais aborder la notion de vengeance, si vous avez envie d'en parler un petit peu. Vengeance proposée par la MJ. PNJ potentiel ou les interactions entre joueurs.
Alors là, je vais faire ressortir tout le côté sadique. Non, c'est vrai que c'est quelque chose, en effet, la vengeance, c'est une composante qu'on peut intégrer au sein de nos parties, mais pour le plus grand plaisir de tous. Ah, ben oui, alors, désolé, surtout du mien.
Voilà, okay.
Mais au final, le joueur qui se venge aussi prend beaucoup de plaisir. Mais le pire, c'est que celui qui a subi potentiellement la vengeance, derrière, je lui offre aussi la possibilité de se venger. Et ça fait un petit cercle vicieux assez sympathique autour des parties. Et après, on se réconcilie autour d'une bière.
On a tous du sang corse. On a tous du sang corse, en fait. Vas-y, pour celui.
L'italien pour moi, mais c'est grave. voilà, ces données, justement, la vengeance est une composante qui peut être très intéressante à cultiver au sein des parties. C'est une mécanique pour moi de gameplay en MMR. Je vais donner parfois, en fait, à mes joueurs, un artefact qui va les posséder, entre guillemets. Je vais les prendre à part, je vais leur dire, voilà, il se passe ça. Et en fait, ils vont avoir juste qu'une envie. C'est d'accomplir la vengeance de la personne qui les possède, mais aussi ils vont voir leur compagnon en tant qu'ennemi. Parce que le but de leur compagnon, c'est d'empêcher potentiellement cette vengeance. Sauf que d'un côté, ça va créer une nouvelle mécanique et dynamique entre groupes, parce que les compagnons doivent s'entraîner, ils le savent, sauf qu'il y a cet ennemi intérieur qui peut être assez risqué, mais qu'il va falloir aussi un peu sauver. Quoi.
Moi, j'ai une exploitation presque unique de la vengeance. C'est que je fais en sorte qu'à chaque fois que les PJ ratent un truc, qu'on soit vaincu par un adversaire quelconque, cet adversaire prendra toujours le temps de les humilier. Même si c'est pas apparemment exprès, on n'est pas conscient, etc. Parce que j'ai constaté il y a bien longtemps, à l'époque où j'étais un jeune MJ adolescent en club, que la principale motivation des joueurs à vaincre le grand méchant, c'est parce qu'il a été méchant avec eux. C'est pas la peine de leur raconter qu'il torture des petites filles, qu'il fait du trafic, etc. Non, c'est un grand méchant, c'est quelqu'un qui a été vilain avec eux. Et par exemple, les joueurs peuvent être très mesquins. Moi, j'ai déjà réussi à les fâcher avec un PNJ parce que j'avais décidé qu'il fallait qu'ils se fâchent avec eux, simplement parce que le type leur a fait une queue de poisson en arrivant en bagnole au même endroit qu'eux. Donc déjà, ils considèrent que ce type est un connard, qu'il fait jouer les flics et que c'était un avocat, évidemment. Ils n'ont jamais eu une bonne relation avec. Et au passage, quand ils ont dû enquêter sur l'assassinat de l'avocat, c'était très dur pour eux parce qu'ils étaient juste contents que le mec soit mort. Et donc, en l'occurrence, j'aime beaucoup que mes antagonistes soient profondément détestés par mes joueurs, parce que c'est-à-dire que quand ils n'auront pas d'autres motivations, qu'ils n'ont pas de trésor à gagner, que c'est pas vraiment dans leur intérêt de continuer à se fâcher avec Bidule, et ben ils vont continuer de s'acharner contre Bidule, et il y a même des fois où j'ai plus besoin de faire le scénar. Les joueurs décident que dès qu'ils auront un moment gagne, ils vont l'utiliser pour pourrir la vie à Bidule. C'est très pratique.
En fait, cette mécanique-là, en fait, j'utilise aussi, ça apporte pas mal de saveur au grand méchant et à l'intrigue au final.
Donc, sans surprise, je fais exactement l'inverse. mais en fait, pour le coup, je pense que c'est plus mes joueurs qui pourraient répondre à ta question que moi-même. J'ai pas le sentiment qu'ils cherchent, d'une façon générale, ils cherchent pas fondamentalement à se venger. Je crois même que statistiquement, c'est l'inverse qui se passe. En même temps, je suis en train de vivre une épiphanie en même temps que je réponds. Il me semble que la dernière grosse campagne qu'on ait faite, donc forcément c'est une campagne de métal-aventure, il me semble qu'ils se sont plus souvent réconciliés avec des grands méchants. Ouais, ben alors en plus, ben, c'est le travers, non, c'est pas forcément un travers, mais le biais de jouer avec l'auteur du jeu, c'est que moi, quand j'ai écrit les PNJ, à part deux, trois exceptions, j'ai toujours essayé de leur donner une part humaine. Parce que il y a des exceptions, hein. Mais j'ai essayé de créer des personnages qui ne faisaient pas le mal pour faire le mal, et qui avaient, de leur point de vue, une bonne raison de faire ce qu'ils faisaient. Et parfois, quand on comprend cette raison, ça suscite une forme de compassion pour ce personnage-là, et on essaye plutôt de discuter avec lui, entre guillemets, enfin, de le remettre dans le droit chemin, ou en tout cas de lui offrir une meilleure façon d'aboutir à ses objectifs que de massacrer des planètes entières. Et j'ai l'impression que, statistiquement, ils se sont plus souvent réconciliés qu'abordir des plans de vengeance. Après, j'ai aussi dans ma tête des contre-exemples où ils ont traversé trois fois la galaxie pour trouver un gars et lui mettre une cartouche, mais j'ai pas l'impression que ce soit représentatif de la façon dont on joue. Et voilà, après, je veux pas mettre des mots dans la bouche des gens, mais j'ai l'impression que les challenges que je leur propose sont plus des objectifs. Faut que je trouve une façon pas trop intelligente de le dire. Ça relève plus de l'intérêt commun que de la quête personnelle. Donc, c'est notamment quand je joue des pirates de l'espace, on prend fait et cause pour les planètes qu'on croise, les populations, etc. Donc, on est plus dans l'ordre de l'idéal et d'une cause commune que de savoir que machin, t'as fait une trace et donc il faut lui plier la gueule.
Et le fait est que le contexte, déjà, de Pira un petit peu d'espace, c'est-à-dire un navire, c'est-à-dire une cause commune, c'est-à-dire un enjeu qui est forcément porté avec des rôles à chacun, etc. Donc c'est peut-être aussi il y a un emport par ce biais-là.
Non, mais j'ai pas fait le jeu n'importe comment non plus.
Et ceci dit, c'est la dimension ludique que tu as choisi. Je suis hyper désolé, on va être obligé d'arrêter un petit peu l'échange. Par contre, je m'octroie le droit de vous laisser poser des questions. Donc, si vous avez envie de lever le bras et de questionner, c'est le moment. Si personne n'en veut, je vous préviens, je me casse.
Non, mais on ne mange personne.
Je suis hyper étonné. Oh, c'est cool.
Ah, c'est cool. Juste, c'est quoi la principale inspiration de Metal Adventure, du coup, dans la création? Parce que là, à la fin, la façon dont tu décris ça, moi, ça me fait penser à Firefly. Quoi.
Ah, tu m'étonnes.
Alors, si ma compagne était là, elle serait super contente, parce qu'en fait, j'ai écrit Metal Adventures sans connaître Firefly. Et pendant tout, ça a duré des années, hein. Ma compagne me disait, mais il faut que tu vois Firefly, il faut que tu vois Firefly. Bon, moi, je refuse à télécharger des choses illégalement, donc c'était très compliqué. Et il y a 2 ans, on m'a offert Firefly pour mon anniversaire. Et effectivement, c'est putain, ça ressemble vachement à ce que... Enfin, moi, évidemment, j'ai vécu dans l'autre sens, ça ressemble vachement à ce que j'ai fait. Josh Whedon a beaucoup copié Metal Adventure. Mais voilà. Ce qui m'a... C'est Sol Bianca, mais personne ne connaît Sol Bianca. C'est une OAV qui date de la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises, avec un équipage de pirates de l'espace. Et quand j'ai créé Metal Adventure, je me suis dit, mais que vont jouer les joueurs dans cet univers de science-fiction? Ouais, c'est Sol Bianca qui m'est venu l'idée, je ne me demande pas pourquoi, c'est ça s'est fait comme ça.
Ah. Du coup, j'avais une question par rapport aux limites. Notamment, tu disais que tu maîtrisais ASTRN, donc j'ai eu l'expérience où j'ai essayé de faire jouer un joueur, un personnage un petit peu extrémiste en fait, d'une des 3 factions qui partagent le gâteau, et plus ou moins explosé au niveau de la table. Alors est-ce que quand vous faites jouer des tensions, quels outils vous utilisez pour cadrer en fait les joueurs, que ce soit à la création ou pendant le...
Alors, pour le livre aussi, puisque j'ai un groupe sur l'extérieur actuellement qui est composé de personnes des 3 factions, donc les tensions sont un peu compliquées. En fait, il faut leur faire comprendre qu'il va falloir tôt ou tard aller au-delà afin qu'ils puissent accomplir leur objectif commun. Donc ça, c'est au niveau de la maîtrise que tu vas le faire. Vraiment leur faire comprendre que, ok, il y a ces tensions-là, mais il va vraiment falloir qu'ils se fassent violence, en fait. Et tu vas même jouer dessus avec la santé mentale au final des joueurs. Et c'est avec ça que je le fais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils doivent se faire violence, ils dérivent en plus, etc. Je m'éclate. En plus, ils sont idéalistes, c'est encore mieux. Mais voilà, la fois que tu joues comme ça, parce qu'en effet, c'est une situation qui est compliquée, mais voilà, pousser les joueurs à se faire violence pour qu'ils finissent par coopérer. C'est du sadisme, mais c'est bon.
Je vais me permettre de répondre aussi sur le sujet, mais dans un autre contexte, c'est sur du Warhammer. Warhammer, ancienne version, ça. J'ai un joueur qui a système de Warhammer est un système progressif, donc il pense qu'il sous-merde et son objectif c'est de devenir un aggregateur. Donc dès lors qu'il sera un aggregateur, il sera quasi un joueur et un contrôleur pour les collègues. Ce qui a été très très intéressant en fait au fur et à mesure de la campagne, qui d'ailleurs est encore en cours, là j'ai un joueur qui est en plein conflit cognitif, qui veut. Enfin, qui voulait réaliser un objectif et en fait qui s'en écarte à cause de ce qu'il a vu au fur et à mesure de son évolution dans le monde. Et là, je me retrouve avec un joueur qui a de l'attention parce qu'il ne sait pas où aller. Et c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que là, je suis face à un mec qui avait un objectif et qui est incapable de le réaliser parce qu'il a un conflit cognitif. Et du coup, ça va au-delà du personnage, c'est le joueur lui-même. Et toucher un peu dans son affect.
Moi, la solution. La solution que je vois, c'est. En fait, le jeu de rôle, c'est comme le cul. Ce qui compte, c'est le consentement mutuel. Et donc. Le sexe. C'est comme le sexe. Ce qui compte, c'est le consentement mutuel. Et je pense qu'on peut faire jouer des tas de choses aux joueurs, y compris, pourquoi pas, dans la tension, la violence, etc., à condition qu'ils soient d'accord, et à condition qu'on se soit assuré, a priori, qu'ils étaient d'accord. Et tout à l'heure, on a parlé de débrief. Je pense que ce qui est important aussi, c'est le brief. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des joueurs qui de plus en plus allaient vers un jeu de rôle émotionnel avec de l'affect, etc. Et dans ces tables-là, d'après ce que j'ai compris, il y a un brief. C'est-à-dire qu'avant le début de la partie, on se dit voilà, on va jouer dans l'affect, on va jouer sur ces thématiques-là. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec cette thématique-là? Oui, ok, on y va. Et ce que j'ai découvert cette semaine sur Facebook, c'est que maintenant il y avait une pratique qui s'appelait la X-Card. Voilà. Alors, ce qui n'a pas rapport avec le sexe, pour le coup, c'est une carte, alors peu importe ce qu'il y a dessus, mais qui permet de signifier aux autres joueurs que là, la ligne rouge a été franchie, on n'est pas à l'aise avec ça et qu'il faut faire une pause parce que ça ne va pas.
Avant que tu répondes, Sébastien, je rebondis là-dessus moi-même. On a fait une table ronde sur le fait de jouer avec les émotions, à la fois dans le rôle, dans le GN, etc. Ça, c'est un truc qui est emprunté au bondage, enfin au BDSM en général. Mais on a fait la table ronde en question, si vous n'avez pas pu y assister, j'en profite pour faire un coup de pub à QSF qui enregistre tout et qui va les mettre à l'exposition sur son site web. Donc si vous voulez réécouter le sujet que vient de voir Arnaud, a été exploré dans ce tableau. Je te laisse la main, Sébastien.
Moi, je voulais juste ajouter que les systèmes de sécurité, à mes yeux, c'est fait pour prendre des risques. C'est-à-dire, on porte un casque parce qu'on va faire des écrans d'acier. X-Card, c'est un outil de ce qu'on appelle sécurité émotionnelle qui n'a vraiment d'intérêt que pour les gens qui font déjà du jeu de rôle tellement émotionnel qu'ils savent qu'ils vont être secoués par les parties. Généralement, c'est pour ça qu'ils viennent, en fait. C'est ce qui les intéresse. Ce qui veut dire que sans caricaturer, si vous jouez de manière beaucoup plus distanciée, des jeux légers et fun, la X-Card n'a pas d'intérêt chez vous. Vos joueurs n'ont pas de raison d'être spécialement en danger émotionnellement, ils n'ont pas besoin d'avoir en gros, la X-Card, c'est avoir un signal fort intégré aux règles qui dit si vous sortez cette carte, c'est pour ça que ça ne va plus du tout pour vous. Et tout le monde s'accorde sur le fait que le MJ ne va pas continuer sa scène alors que vous avez signé avec elle, vous ne plaisez pas, etc. Et on peut en faire plein de choses quand on a arrêté une scène de cette manière. On peut prendre le temps de discuter de ce qui ne va pas et éventuellement de le régler. Des fois, il m'est arrivé d'avoir des joueurs qui me disent juste j'avais besoin de 5 minutes de break là-dessus, éventuellement, je vais en griller une, vous pouvez continuer à jouer, je vous rejoins. Et effectivement, quand on manipule ces joueurs et qu'on utilise ce qu'on sait d'eux, pour leur faire ressentir des émotions, non seulement ça peut déraper, mais des fois ça peut juste super bien marcher plus fort que prévu. Et là encore, un peu de sécurité émotionnelle, ça implique pas mal de choses, y compris pour moi un truc super important. Une grande partie des gens qui considèrent que la X-Card sert à rien partent du principe que s'il y a un pain, il n'y aura qu'à en parler. Mmh. Sauf que la plupart du temps, quand vous avez un vrai pain émotionnel avec un truc qui a été évoqué dans une partie de l'euro, en parler, c'est s'emparer encore plus sur le truc qui vient nous faire mal. Et très franchement, moi je considère qu'il y a des tas de situations où je ne vais pas expliquer aux gens avec qui je joue pourquoi ce qui vient de se passer me fait du mal, ou pourquoi ça me trouble, etc. Et je considère que c'est une liberté importante à accorder aux gens. D'ailleurs, vous avez le droit de dire ça ne me plaît pas sans avoir besoin d'expliquer. Autant quand mes joueurs me disent j'aime bien tel truc, j'aime bien qu'ils m'expliquent pourquoi. Autant quand un machin leur plaît pas, le type qui veut pas de fromage à la fin du repas, ils n'ont pas à se justifier.
Je vais juste intervenir de manière très très courte. En fait, il y a cette notion, vous pourrez me trouver, en discuter après, hein, parce que là je parlerai de l'expérience et ça serait trop long. Mais il y a cette notion de contrat social, en fait, qu'on parle souvent en termes de jeu de rôle, qui a à mettre en œuvre entre les joueurs et le MJ. On pourra en discuter, parce que moi, au niveau jeu de rôle, justement, je suis avec des enfants qui ont des problèmes de communication, etc. Donc le contrat social est très important avec l'émotionnel, etc. Donc n'hésitez pas à en discuter, ça vous intéresse.
Je m'appelle Maître Turé, il est 20h04. Je ne sais pas si la salle est encore libre ou s'il y a quelque chose derrière. Voilà, je voyais Florent derrière. Si vous voulez échanger, on est là, on est en bas, au Pôle Ludique, pour encore deux jours. Et pour la soirée qui est ce soir, celle du Pôle Ludique, n'hésitez pas. On va parler.